Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis content de vous retrouver pour Culture Média, au menu tous les médias et toutes les formes de culture. Nous rendrons évidemment un hommage à cet immense comédien, auteur et réalisateur qui était Jean-Pierre Bacri, homme de culture qui se méfiait des médias comme personne. Notre info média, comment enquêter sur les mafias quand on est journaliste, j'allais même dire quand on est simple journaliste, quelles sont les méthodes, quels sont les risques? Nous en parlerons avec le grand reporter Frédéric Ploquin qui vient de travailler sur ces organisations criminelles. Puis nos invités, hasard du calendrier, ils sont tous sur M6 aujourd'hui. Le cuisinier Norbert Tarrère et le meilleur ouvrier de France Bruno Cormeret, ils ont lancé hier la 8e saison de La meilleure boulangerie de France. Et puis Michael Youn, le trublion, comme on dit, du Morning Live qui revient avec une deuxième édition de la Morning Night. C'est la même chose, mais la nuit, en fait non, c'est pas la même chose. C'est encore plus déjanté. Vous retrouverez évidemment son portrait inattendu par Hélène Manarino, mais également la triplette Bertrand Chamerois et son écran de veille, Eva Rock pour le zapping du lendemain, et dans moins de 20 secondes, Charles Decamp et le journal des médias et les audiences d'hier soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. J'avais dit 20 secondes, 12 secondes. Charles Decamp, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias, le sommaire du jour, Charles.
L'hommage à Jean-Pierre Bacri, des négociations en cours à L'Équipe et la fin annoncée d'une des meilleures séries de ces dernières années.
Et on commence évidemment par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision?
Pas de surprise en tête, Sam a fédéré 4 500 000 téléspectateurs sur TF1, soit 20,5% du public. La série est aussi largement leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 30% de part d'audience. France 2 est deuxième avec la suite de The Bay saison 2 en hausse à 2 600 000 téléspectateurs pour 11% de part d'audience. France 2 est devant Secret d'Histoire sur France 3, 1 900 000 personnes, soit 8,7% du public. La surprise, c'est l'énorme carton de W9, quatrième chaîne de France hier avec le film La Chute de Londres, 1 900 000 téléspectateurs. Chose rarissime, W9 est devant sa grande sœur M6.
Incroyable.
M6 avec l'émission Opération Renaissance, où ça est le deuxième numéro de cette émission de Karine Lemarchand. Elle perd encore 150 000 téléspectateurs à 1 700 000 personnes et 7,6% de part d'audience seulement.
Culture Média.
Et on commence ce journal des médias avec la disparition de Jean-Pierre Bacri.
Le visage de l'acteur et scénariste est en une des journaux ce matin. De Libération à l'Humanité, en passant par Le Parisien, Nice Matin et La Provence, il lui consacre de longues pages au lendemain de sa disparition à l'âge de 69 ans. On a souvent vu Jean-Pierre Bacri à la télévision, ce qui ne l'avait pas empêché de s'en moquer, comme dans le film Cuisine et Dépendance en 1993.
Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Un numéro de claquette? C'est quand même pas obligatoire. Vous êtes gay, vous, vous êtes content, bon, ben c'est très bien, vous faites ce que vous voulez, mais laissez-moi tranquille. Il n'y a qu'à la télévision qu'on voit des gens éclater de rire à longueur de temps, là, comme des crétins.
Et les chaînes de télévision vont lui rendre hommage dans les jours qui viennent.
Oui, il y aura de quoi faire. Jean-Pierre Bacri a tourné une cinquantaine de films et signé le scénario de 8 d'entre eux avec Agnès Jaoui. 4 de ces scénarios ont même été récompensés au César, un air de famille notamment. C'est ce film que C8 proposera ce soir vers 21h15. Demain, c'est France 2 qui consacrera sa soirée à Jean-Pierre Bacri avec 2 longs métrages, Le goût des autres et On connaît la chanson, 2 films coécrits par Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui. Enfin, dimanche soir, TF1 diffusera pour la première fois en clair Le sens de la fête d'Éric Toledano et Olivier Nakache. Le film était sorti fin 2017 et il avait connu un joli succès au cinéma avec 3 millions de spectateurs.
On en vient au feuilleton du foot. Qui l'aurait cru il y a encore un mois? Mediapro, nouveau plan de secours pour la Ligue de football professionnel, la LFP.
Oui, le groupe sino-espagnol a proposé à la Ligue de continuer à diffuser les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 sur sa chaîne Téléfoot, et ce jusqu'à la fin de la saison si nécessaire. En échange, il reverserait tous ses revenus à la Ligue, une fois déduit évidemment les coûts de production. Cette proposition a de quoi faire sourire quand on se rappelle que c'est le défaut de paiement de Mediapro qui a forcé la LFP à récupérer ses droits. La Ligue s'apprête à lancer un appel d'offres pour les revendre, mais elle cherche une solution de secours au cas où aucun acheteur ne se manifesterait assez rapidement. M6, TF1 et France Télévisions ont d'ores et déjà fait acte de candidature.
La direction de L'Équipe, le quotidien sportif, fait de nouvelles propositions pour mettre un terme à la grève, grève qui dure depuis 10 jours.
Le directeur du groupe, Jean-Louis Pelé, a présenté 2 options aux salariés hier, soit le maintien du plan social, dont les salariés réclament le retrait, mais avec une amélioration des conditions de départ, soit un accord de rupture conventionnelle collective qui serait lié à un accord de performance. Cette option permettrait d'éviter tout départ contraint et la direction n'exigerait que 20 départs au lieu de 35. En échange, les salariés restants accepteraient une baisse temporaire de leur salaire de 5% maximum jusque fin 2022 et une augmentation de leur durée de travail avec la suppression de 5 RTT.
Des tensions entre salariés et direction touchent également le réseau régional de France 3.
Un mouvement de grève a débuté hier et il a été très suivi d'après les syndicats. Il a été reconduit aujourd'hui. Les salariés appellent la direction à repousser le projet de journal régional à 18h30 qui doit être lancé lundi prochain avant le 19-20. Ils dénoncent le manque de moyens et de préparation. De son côté, la chaîne assure avoir engagé un véritable travail collaboratif avec chaque bureau régional. Elle n'a pour l'heure pas l'intention de modifier le calendrier de lancement de cette nouvelle offre d'information.
Le focus programme du jour, Charles, c'est le documentaire Les lycéens, le traître et les nazis, ce soir sur France 2.
Il veut faire la lumière sur un épisode peu connu de l'histoire de France. C'est l'histoire d'un réseau d'une centaine de lycéens parisiens qui se sont entraînés en secret pour aller combattre les Allemands dans le sud en 1944. Ce qu'ils ignorent, c'est que l'un d'eux est un traître et qu'il informe les Allemands depuis des années. Quand ils quittent Paris pour aller se battre, ils ne savent pas qu'ils s'apprêtent à tomber dans un piège et qu'une quarantaine d'entre eux périront avant même d'avoir atteint leur destination. Une histoire dramatique qui n'avait jamais été mise en image jusqu'ici, à la grande surprise du réalisateur du documentaire, David André.
C'est pas évident de comprendre pourquoi cette histoire qui est extraordinaire par son ampleur, par son côté dramatique, héroïque, est restée aussi peu connue. On avance le fait qu'elle est survenue le même jour que le massacre d'Oradour-sur-Glane, qui l'aurait éclipsé un peu dans notre souvenir, ou tout simplement elle fait partie de ces histoires de la résistance en France qui reste encore à faire connaître du grand public. Celle-là est particulièrement extraordinaire, donc j'ai été très surpris effectivement qu'il n'y ait pas eu davantage d'ouvrages ou même de films consacrés à cette épopée.
Pour raconter cette histoire, le réalisateur a eu recours à la reconstitution avec l'aide de jeunes comédiens du cours Florent. C'était selon lui la seule solution.
C'est une histoire qui n'avait pas d'image, rien. Quelques textes, des procès-verbaux, les confessions d'un traître, quelques souvenirs, manuscrits de survivants de ce réseau, mais rien, quelques photos, pas d'image. Et donc effectivement, la seule façon de procéder pour lui redonner vie, c'était d'essayer de la réincarner à travers les décors qui sont heureusement restés les mêmes, la ferme où le drame s'est déroulé, et puis les forêts alentour, et puis aussi à travers le jeu de jeunes comédiens qui se sont emparés de cette histoire et qui m'ont permis, avec une déco précise, des costumes, tout ça tiré des recherches que j'ai pu faire, de réincarner en quelque sorte ce réseau de résistants lycéens.
David André au micro de Louise Bernard. Les lycéens, le traître et les nazis, c'est ce soir à 23h30 sur France 2, et Eva Rock vous en reparle. On parlera tout à l'heure à 10h06 dans son zapping du lendemain.
Un prime pour parler d'Europe et d'outre-mer, c'est sur France Télévisions.
Et même une prime plutôt.
Ah pardon, je pensais que c'était un prime.
Non, une prime.
Merci beaucoup.
Les rédacteurs en chef du groupe Public sont désormais encouragés financièrement, d'où la prime, à mettre en lumière l'actualité ultramarine et européenne. C'est ce qu'a révélé hier Le Monde. Une partie variable de leur rémunération dépend de la mise en œuvre d'objectifs de visibilité autour de ce qui se passe aux échelons européens et ultramarins.
Une étoile pour un candidat de Top Chef 2020,
oui,
déjà.
Une étoile au guide Michelin. Le jeune Maurice Sacco a reçu la prestigieuse distinction hier, moins d'un an après sa participation au concours d'M6 et moins de 5 mois après l'ouverture de son restaurant. Le jeune homme de 28 ans, qui aura bientôt sa propre émission sur France 3, a également reçu le prix du jeune chef. Ce prix, il le partage avec une autre ancienne candidate de Top Chef. Elle s'appelle Colline Fauquier et elle a participé à la saison 7 du concours en 2016.
Et on termine ce journal, comment on l'a commencé, avec une mauvaise nouvelle.
On a gathering storm comes a tall handsome man in a dusty black coat with a red right hand.
Vous avez sans doute reconnu le générique de Peaky Blinders. La série avec Cillian Murphy s'arrêtera à l'issue de la 6e saison, dont le tournage a déjà débuté. Elle avait été lancée au Royaume-Uni en 2013 par la BBC, avant que Netflix n'en récupère les droits pour le reste du monde, où elle a rencontré un succès public et critique considérable. Mais le créateur l'a promis, petite bonne nouvelle, Peaky Blinders s'arrête, mais l'histoire va continuer sous une autre forme.
Et nous, on continuera à saluer la mémoire de Jean-Pierre Bacri. Merci beaucoup, Charles Decan. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. Dans un instant, notre info média du jour focus sur les journalistes qui enquêtent sur la mafia entre menaces et attaques. Il est très difficile, c'est un euphémisme, d'obtenir des informations sur ce milieu silencieux et surtout dangereux. On en parle avec le grand reporter et journaliste d'investigation Frédéric Ploquin.
Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vondel.
9h-11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vondel.
Cela fait près d'une semaine maintenant qu'a commencé le plus grand procès de la mafia au XXIe siècle en Italie. Pas moins de 350 accusés, 400 avocats, 900 témoins. Tout cela pour une famille, la famille Mancunzo, le clan de la Ndrangheta, la mafia calabraise la plus puissante des organisations criminelles italiennes. Une organisation qui, comme les autres, a menacé de nombreux journalistes ces dernières années. Il est très dangereux de s'y intéresser, dangereux mais indispensable. Alors comment faire pour enquêter sur la mafia? Comment obtenir des informations sur ses activités? Et quels sont les risques et leurs conséquences? Pour répondre à ces questions, notre invité Frédéric Ploquin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être ici en direct sur Europe 1. Vous êtes grand reporter, journaliste d'investigation, grand spécialiste de ces questions. Vous êtes auteur de plusieurs livres sur le crime organisé. Le dernier, Les narcos français brisent l'omerta, qui va sortir début février chez Albin Michel. Vous avez également écrit un rapport sur les journalistes et la mafia pour Reporters sans frontières. C'était il y a un peu plus de 2 ans. Alors pour commencer, je voudrais vous faire écouter un message vocal. Ce message est adressé à une journaliste italienne qui enquête sur la mafia. Elle s'appelle Federica Angeli. Elle travaille pour l'un des plus grands quotidiens italiens, La Repubblica. Et un jour, l'un de ses informateurs lui dit ceci.
Il faut que tu fasses attention, ils sont vraiment furieux. Tes articles les ont mis en colère. Il faut que tu sois bien plus prudente que d'habitude. Ce sont vraiment des ordures. Ils n'hésiteraient pas à faire exploser une bombe sous ta fenêtre ou à se servir d'un membre de ta famille pour se venger.
Un message d'alerte, c'était il y a deux ans. C'est ça, les réalités d'une enquête sur la mafia?
Ça fait froid dans le dos, mais c'est ça, effectivement. Les journalistes italiens sont les mieux placés au monde, avec les journalistes mexicains, pour dire combien il est extrêmement difficile d'enquêter sur le crime organisé.
Comment surtout, ils travaillent, les Italiens, les chiffres? Combien sont protégés, puisqu'ils sont protégés?
Bah c'est ça, y a le plus célèbre... Plus symbolique, c'est Roberto Saviano qui vit effectivement sous protection policière. Lui, il avait travaillé sur la mafia plutôt napolitaine. Ouais. Mais il y a un paquet de journalistes italiens qui aujourd'hui ne peuvent plus se déplacer sans une escorte derrière eux. Il y en a un certain nombre qui ont quand même. Là, il y a une menace de bombe devant le domicile, mais ça s'est produit. Et le plus compliqué, si vous voulez, c'est quand vous êtes à La Repubblica ou dans une grosse structure, dans une grosse rédaction, vous êtes un tout petit peu plus protégé, on va dire. Mais le plus compliqué, je pense, c'est quand même le travail des localiers, ouais. Des journalistes qui sont sur le terrain, dans les Pouilles, sur le territoire de la 'Ndrangheta ou au fin fond de la Sicile. Parce que là vous êtes à portée de main, on va dire, des personnes sur lesquelles vous travaillez, des mafieux sur lesquels vous travaillez. Vous pouvez les rencontrer à la boulangerie. Vous pouvez les rencontrer, pourquoi pas à la messe si vous y allez, vous pouvez les rencontrer au café ou dans la rue. Et là, cette proximité et le fait d'être justement dans des toutes petites structures locales vous expose terriblement. Quand j'avais fait ce rapport pour Reporters sans frontières, j'avais parlé à un certain nombre de ces journalistes. Et la plupart persistent, continuent. Mais on n'est pas loin de enquêter ou s'exiler. Hein. On n'est pas loin de enquêter et mourir.
J'avais les chiffres de 2017, 196 journalistes italiens en 2017 ont bénéficié de mesures de protection, dont 10 journalistes protégés 24 heures sur 24 par la police et les forces de l'ordre. Vous en parliez, parmi les journalistes italiens protégés 24 heures sur 24, il y a Roberto Saviano, auteur de plusieurs enquêtes sur la Camorra, la mafia napolitaine. Il s'était notamment fait connaître avec Gomorra, le film. Il a été menacé à plusieurs reprises, et pourtant, il dit ne jamais avoir eu peur. Exemple, lors d'un rassemblement en 2008, c'était au micro d'Europe 1.
Je suis venu pour leur montrer que je n'ai pas peur. Ce qui leur pose problème, ce n'est pas le fait que je dénonce ce qu'ils ont fait, mais c'est que les gens s'y intéressent et le racontent autour d'eux. La Camorra a peur de ça, d'être au cœur de l'attention du public et de la presse internationale.
Frédéric Ploquin, la question que tout le monde se pose et que moi je me pose quand je vous entends ou quand je vous lis, est-ce que vous avez déjà eu peur lors de vos enquêtes sur les mafias?
Je vais commencer par vous dire que ce sont des choses, la peur dans ces cas-là de l'enquêteur, dont on n'a pas envie de parler à la radio et en public. Je pense que ce sont des choses qu'il faut garder pour soi, premièrement. Deuxièmement, je voudrais revenir à ces journalistes italiens. Le paradoxe, c'est ça, c'est que les mafias, les organisations mafieuses, les organisations criminelles craignent plus d'une certaine manière un petit article quelque part dans un journal, même sur un petit site internet, qu'une enquête judiciaire.
Une enquête pour quelle raison ?
Parce que ça va beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous pouvez ébranler un empire mafieux installé sur un territoire avec des ramifications, il faut quand même évoquer ce que c'est que la mafia. On n'a pas ça en France, mais ce sont quand même des voyous qui ont des ramifications au sein même de l'État. Donc c'est là ce qui complique encore plus, ce qui expose encore plus le journaliste, c'est qu'à un moment donné, vous n'êtes pas à l'abri du fait que le mafieux va travailler avec un élu local qui lui-même va s'appuyer sur un policier corrompu. Et là vous n'avez plus face à vous simplement quelques voyous éparpillés, comme ça peut être le cas en France, mais des gens qui ont des antennes au cœur de l'État. C'est arrivé à un journaliste slovaque, je me souviens, qui enquêtait sur le détournement par la mafia, par la Ndrangheta, justement, en Slovaquie, de détournement des fonds d'aide européenne, qui a été tué parce qu'il enquêtait là-dessus, et on a eu d'énormes soupçons sur le fait que, en fait, les tueurs avaient été probablement renseignés par des personnes qui étaient au cœur de l'appareil d'État. Donc c'est là où la peur peut redoubler. C'est là où il faut prendre des précautions absolument considérables et travailler de manière cryptée en permanence, en réseau, pourquoi pas même de l'étranger quelquefois.
Et j'allais justement vous en parler, juste pour saluer la mémoire de ce journaliste, son nom.
Jan Kuciak. Jan Kuciak, exactement.
Frédéric Ploquin, votre dernier livre a pour titre « Les narcos français brisent l'omerta ». Justement, on est au cœur du sujet. Comment briser l'omerta ? Comment faire pour recueillir des infos sur des organisations dont l'une des caractéristiques principales est d'être discrète et silencieuse ?
Le problème, c'est que les voyous, les mafieux, sont des gens qui ont souvent un ego surdimensionné et qui ont envie d'imposer leur propre tempo, leur propre image. C'est-à-dire qu'ils veulent bien communiquer, mais à condition que ce soit eux qui maîtrisent la chose.
D'abord, qu'est-ce qu'on appelle communiquer quand on est dans la mafia ?
Communiquer, c'est faire la publicité pour son organisation, parce que la mafia, c'est un commerce, c'est un business, que vous vendiez de la drogue, que vous recycliez des eaux boueuses ou quoi que ce soit. Vous avez besoin, à un moment donné, les mafieux sont en quête systématiquement d'honorabilité. Donc ils veulent être reconnus. C'est ça l'objectif suprême, c'est pas de rester dans la fange.
Pardonnez cette question de Béotien, mais il y a plein de gens qui se posent la question. On connaît leur nom, on ne les connaît pas. C'est des gens qui se cachent ou c'est des gens qui ont pignon sur rue, mais dont on n'a jamais réussi à prouver la culpabilité, comme en son temps Al Capone.
Ce sont des gens dont on connaît les noms, que les policiers ont dûment répertoriés en général, et quand vous êtes journaliste, votre boulot c'est de les approcher, et non pas de les arrêter, c'est ça qui est compliqué. Vous êtes journaliste, vous essayez d'approcher ces cibles de la police, mais pas, évidemment pas pour les arrêter et pour les renvoyer chez le juge, mais pour faire votre travail de journaliste et essayer de comprendre ce qui moi m'intéresse énormément depuis 30 ans, ce qu'il y a dans la tête d'un mafieux à un moment donné, pourquoi est-ce qu'il se met, et puis comment il travaille,
mais
et comment il fait.
J'en reviens à ma question, qu'est-ce que vous appelez faire sa publicité ?
Justement, c'est lui entend, va entendre. En fait, les gangsters, quand vous les côtoyez de près, comme moi je peux le faire, ne connaissent pas, ignorent tout du métier de journaliste. Ils ignorent tout du métier de journaliste. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un journaliste. Et donc, quand vous redevenez journaliste à un moment donné, ils s'aperçoivent que... parce que pour eux, vous êtes avec eux ou contre eux. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, c'est extrêmement compliqué de rester journaliste. Parce que, en gros, soit vous roulez pour eux, vous allez faire leur publicité, en faire des héros, etc. Soit vous redevenez journaliste à un moment donné et vous dites « Non, mais attendez, moi, j'ai la distance journalistique, donc je ne suis pas ton ami. » On s'est vu. Et c'est là où ça peut coincer, parce que à ce moment-là, c'est où est mon intérêt ? Parce que le gangster, le mafieux, lui, ne jure que par l'intérêt.
Quelles autres sources, à part la personne elle-même ? On continue à en parler, ce sujet passionnant, la mafia, et comment travailler autour de la mafia avec le grand reporter, journaliste d'investigation, Frédéric Ploquin.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h,
Philippe Vandel.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Frédéric Ploquin, on se pose la question de savoir comment les journalistes peuvent enquêter sur la mafia d'une manière générale et en particulier, puisqu'on parle de cet immense procès qui est en train de se tenir en Italie. Le procès s'est ouvert il y a quelques semaines et de nombreux observateurs, et de nombreux observateurs disent qu'ils montrent qu'il y a des fissures au sein de la Ndrangheta. C'est dans ces fissures, d'abord, qu'est-ce qu'on appelle des fissures et est-ce que ce sont dans ces fissures que les journalistes peuvent travailler ? Ils ne sont pas d'accord entre eux.
Si vous voulez, un procès pour un journaliste qui travaille sur la mafia en général, c'est une aubaine formidable. parce que tout d'un coup, vous avez à portée de main, c'est un livre à ciel ouvert, un procès. Donc vous pouvez vous asseoir dans la salle d'audience et vous avez à portée de main ces personnages sur lesquels vous travaillez depuis des mois et vous les entendez, vous les voyez se défendre et vous les voyez éventuellement. Et c'est là où, effectivement, et la justice et les journalistes peuvent se servir, si je puis dire, vous les voyez se déchirer. Parce qu'à partir du moment où une organisation mafieuse comparaît devant la justice, c'est qu'il y a eu des erreurs, c'est qu'il y a eu probablement des balances, parce que je vois pas comment il peut en être autrement. C'est comme ça que les mafieux tombent. Et que donc, et des repentis aussi, puisqu'en Italie, ils ont un statut particulier. Et, et c'est là est la faille, et là est la fissure dans laquelle vous pouvez vous installer, vous, journalistes, et c'est pareil pour les magistrats et les policiers, tirer les fils et essayer de comprendre un peu mieux. Moi, j'ai toujours couru après les procès en assises où il y avait des grands bandits, par exemple, parce que c'est vraiment le moment où vous pouvez les... Hein, y a 30 mètres vous séparent. Ouais. Évidemment, ils sont dans le box des accusés, vous êtes sur le banc des journalistes, mais vous pouvez les regarder les yeux dans les yeux, vous pouvez les comprendre, vous pouvez les observer pendant des heures. Et ça, c'est quand même un moment inouï, parce que d'habitude, ils sont soit en cavale, soit en prison. Donc, vous ne les voyez pas. Et puis, vous n'avez pas leur numéro de téléphone portable, par définition, puisque la police les cherche.
C'est une image qui m'avait frappé quand j'ai entendu ça aux infos le matin sur Europe. C'est qu'ils avaient cueilli 300 personnes de la mafia la même matinée. Donc, personne ne pouvait se planquer et faire passer des infos. La mafia infiltre tous les milieux, la politique, l'économie, la sécurité. Elle corrompt des dirigeants politiques, des chefs d'entreprise, des policiers. Est-ce que la mafia achète aussi des journalistes?
La mafia n'est pas là pour combattre l'État. La mafia s'installe, le moment où la mafia est le mieux installée, c'est lorsqu'elle pactise avec des élites, avec des représentants de l'État, et qu'elle se confond d'une certaine manière avec l'État. C'est là où elle est bien, effectivement. À partir de là...
Pas de nouvelles, bonnes nouvelles.
À partir de là, oui.
Mais alors justement, exactement, est-ce qu'elle passe des pactes avec les journalistes?
Moi, j'ai aucun cas comme ça en tête où les... Bon, si vous voulez, ils peuvent avoir, au Mexique, par exemple, ou en Colombie, ou en Afrique, où vous avez des mafias puissantes, vous pouvez avoir ce que j'appellerais, moi, des griots, c'est-à-dire des bardes. En français, on dit des bardes. En Afrique, on appelle ça des griots, qui chantent vos louanges. Pablo Escobar avait des gens qui étaient des pseudo-journalistes, pas des vrais journalistes, mais qui chantaient ses louanges.
Ça a marché, il y a toujours des portraits de Pablo Escobar dans les rues de Bogota.
Absolument, et puis Pablo Escobar, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, sur la manière dont ils cherchent à se faire leur propre publicité, lui, il voulait passer pour un bienfaiteur, le bienfaiteur de l'humanité, Pablo Escobar. Et donc, il fallait bien que les gens relaient à un moment donné ceci. Et là, donc ce sont pas des entre guillemets, ce que j'appelle des journalistes comme vous et moi. Ouais. Ce sont des bardes, on va dire, des gens qui sont éventuellement payés pour écrire. Au Mexique, ils écrivent des poèmes, des chansons. Et au Mexique, ça passe pas par la presse, ça passe par l'achat de chansonniers qui vous écrivent des poèmes à la gloire du mafieux local, qui vont ensuite tourner dans les fêtes populaires et sur les radios. Donc, vous voyez bien que les mafieux ont besoin, d'une certaine manière, qu'on parle d'eux, mais dans le sens où eux l'entendent.
Alors, on ne va pas parler des bardes, on va parler des journalistes qui enquêtent vraiment sur la mafia. Quels sont les risques qu'ils prennent? Perdre leur vie, perdre la vie de leurs proches?
Tous les journalistes italiens à qui j'ai pu parler de ces conditions de travail, d'abord avaient envie de continuer. J'en ai aucun qui m'a dit, moi, demain j'arrête, je m'exile, etc. Mais ce qui devient compliqué, c'est quand vous êtes entouré par 5 ou 6 policiers en permanence pour vous protéger. Que vous en avez un en bas de chez vous, parce qu'on peut vous poser une bombe. Que vous savez qu'à tout moment, on peut venir vous dérober chez vous votre outil de travail, c'est-à-dire votre ordinateur dans lequel, ou vos disques durs dans lesquels vous avez vos informations, vos data. Donc en permanence, vous vivez sous la menace de cambriolage, d'agression de vos enfants, éventuellement de bombes devant votre porte. Donc ça peut aller extrêmement loin. Et je peux vous dire qu'il faut une certaine volonté, il faut vraiment y croire pour continuer.
Je vais vous faire encore une fois entendre Roberto Saviano. Ça fait près de 15 ans qu'il vit protégé, qu'il vit traqué. Impossible pour lui d'avoir une vie normale, insouciante. Les mafieux n'oublient jamais, dit-il, des conséquences très lourdes à porter, au point que ça le pousse à s'interroger sur son engagement aujourd'hui.
Non, non ne valeva la peine.
Non, ça ne valait pas la peine.
Et si mi dicessero lo rifaresti?
Je m'y suis retrouvé et si on me disait est-ce que tu referais ça si tu pouvais?
Non, non lo rifarei.
Je dirais non, je ne le referais pas.
Mi sono raccontato che forse io non avrei potuto fare altrimenti.
Je me suis convaincu, je me suis dit que je n'aurais pas pu faire autrement et donc je pense que je dois aller jusqu'au bout.
Il y a un historien du crime organisé qui regrette que le procès de la 'Ndrangheta ait quasiment disparu des médias italiens qui sont concentrés sur les crises sanitaires et économiques. C'est parce que c'est vraiment plus intéressant ou parce que c'est dangereux pour les journaux également de faire le compte-rendu de ce procès, Fleuve ?
Je pense que c'est l'effet en tonneau noir, quoi. Je veux dire, le ou la Covid balaye tout aujourd'hui, malheureusement. Donc ça, c'est une chose. Mais pour rebondir sur ce que disait Roberto Saviano à l'instant, là, le journaliste italien, effectivement, au bout du compte, il se rend compte qu'il est probablement plus enfermé lui-même que ne le sont les mafieux en face qui sont en liberté et continuent à faire leurs affaires. Et celui qui est en prison, au bout du compte, c'est une prison, évidemment, c'est pas une vraie prison, mais c'est une forme quand même d'enfermement, et bien c'est lui. Et probablement plus que les mafias qu'il a traqué dans sa carrière.
Vous parliez du journaliste qui enquête sur la mafia, qui est chez lui avec son ordinateur, dont il a peur de perdre le travail et, le disque dur. Les mafias s'en prennent justement aux journalistes. Et alors pour les contrer, il y a des journalistes qui sont unis au sein de collectifs comme le Consortium International des Journalistes d'Investigation, ou une organisation dont on avait parlé ici, Forbidden Stories, où c'est des enquêtes qu'on met en commun. Et comme ça, si un journaliste disparaît, l'enquête continue. Et ça, la mafia le sait. Est-ce que ces initiatives gênent réellement les mafias ?
En fait, c'est la seule solution aujourd'hui. C'est de ne plus être tout seul dans son coin à mener une enquête, c'est de s'adosser à un collectif. Quand vous vivez sur des territoires comme ça, où c'est extrêmement périlleux d'enquêter, vous pouvez partager vos données, vous pouvez faire en sorte que vos data que vous accumulez sur toutes ces organisations criminelles soient en plusieurs endroits. Donc déjà, ça limite l'intérêt de venir vous cambrioler, vous. Et puis effectivement, faire savoir que si on élimine X ou Y, je pense notamment à Daphne Caruana à Malte, qui a été tuée et qui a vu ses enquêtes reprises par un consortium comme ça de journalistes. Je veux dire, c'est la meilleure des choses à faire, c'est la meilleure réponse. Et effectivement, pour les mafieux, c'est abominable, parce que vous n'avez plus une tête devant vous, vous en avez 50.
Merci beaucoup Frédéric Ploquin, merci d'avoir été avec nous en direct. Grand reporter, votre dernier livre, Les narcos français brisent l'omerta, publié chez Albin Michel, ça sort dans 15 jours, le 3 février. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, direction tout à fait autre chose, les meilleures boulangeries de France, avec le cuisinier Norbert Tarrère et le meilleur ouvrier de France, Bruno Commeret. C'est la saison 8 de La meilleure boulange qui démarre sur M6. À tout de suite.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
9h-11h.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Norbert Tarrère.
Bonjour Philippe, vous allez bien ?
Mais je vais très bien, et vous-même ?
Eh ben super bien !
Je suis content de vous voir, la dernière fois qu'on s'était parlé, vous étiez confiné. Donc je suis heureux de vous voir en direct dans ce studio. Cuisinier, homme de télévision, plusieurs émissions sur M6, Norbert commis d'office, la grande vadrouille de Norbert. Et vous revenez avec la 8e saison de La meilleure boulangerie de France. C'est du lundi au vendredi à 18h40 sur M6. Avec nous également Bruno Cormeret, mais pas tout à fait avec nous. Bonjour Bruno.
Bonjour, je suis désolé. Ouais. Je suis coincé dans les bouchons parisiens, et donc je suis dans mon taxi. Et voilà.
Voilà, vous
donc
êtes
c'est
pas...
un peu compliqué pour accéder, je ne suis pas avec vous.
Voilà.
C'est bien dommage, j'aurais bien voulu partager ce moment avec vous comme ça et se voir physiquement, mais bon.
Mais on vous attend.
C'est l'inverse.
Voilà. Surtout, c'est Bruno qui a les croissants. C'est pour ça, c'est Bruno qui a les croissants.
Bruno, vous êtes boulanger, MOF, ça veut dire meilleur ouvrier de France, et non pas Marc-Olivier Fogiel, parce qu'on est une émission média. Et on vous connaît parce que vous incarnez l'émission La meilleure boulangerie de France depuis le début. Pour qui n'aurait vu aucune des 7 saisons précédentes, c'est quoi le principe, Norbert ?
Le principe, c'est de parcourir la France avec Bruno et de dénicher la meilleure boulangerie de France. Et chaque saison, on a toujours des pépites. Hey Bruno, j'ai oublié de te dire, Bruno, record historique, tout confondu depuis la création de ce programme, 1,8 million. C'est le record historique, hier.
Ouais, alors 1,8 million, mais il y avait le confinement. Comme il fallait rentrer chez soi, alors ça veut dire que vous êtes au courant des audiences, je vais mettre un petit bémol sur ce que vous dites. 1,8 million, mais 8,6% de part de marché, 13,2% sur les femmes responsables des achats, qui est la cible de M6. Et l'an dernier, pardon de vous dire ça, et de doucher votre enthousiasme, moyenne était à 15%, donc il vous reste encore des steps, des marches à faire. Mais c'est une émission qui monte en puissance.
Bah c'est vrai que nous, avec Bruno, on s'arrête toujours au premier chiffre qu'on a, c'est 1,8 million. Ah mon Bruno, on est content.
C'est exactement ça. Voilà. Non, mais c'est une émission qui effectivement va monter en puissance. Là, on le voit bien, nous, on est un peu sollicités. Les gens nous attendent, les gens ont envie de nous retrouver. Donc, c'est un très, très bon début et donc ça va se consolider
bien sûr. Et l'an passé, la moyenne, c'était 1,387. Ouais. Donc là, vous faites beaucoup plus que la moyenne. Mais ce qui compte, c'est les parts de marché.
Un road trip
dans toute la France, tous les deux. Moi, j'ai vu l'émission qui passe ce soir.
Ouais.
On vous voit à cheval, on vous voit avec des armures. Chaque soir, il y a une compétition entre deux établissements. Sur quels critères ?
Alors, le critère, c'est la boutique. Donc, ouais. C'est la meilleure boulangerie de France. La boulangerie, c'est aussi un environnement. Donc, c'est leur boutique. La façon dont ils vont recevoir le client, l'aisance avec laquelle ils vont nous présenter les produits. Parce que ce qui est tout aussi important, c'est aussi de savoir vendre son produit et savoir transmettre le savoir-faire du boulanger qui, lui, est derrière au fournil. Ouais. Tu me dis si je me trompe, Bruno. Hein.
Et l'énergie.
Non, mais c'est tout à fait ça. Et puis, effectivement, le premier contact qu'on a du produit et du boulanger, c'est le magasin. Donc, ouais. Le magasin, c'est un endroit, enfin, c'est hyper important. Même si le client, on n'est pas dans un salon de coiffure, hein, le client reste peu de temps et il ne faut surtout pas se gourer. Il faut que tout soit nickel.
Ouais, alors justement, puisque vous parlez de ça, la première impression, on n'a jamais deux fois la chance de faire une première impression, dit le proverbe. D'entrée de jeu dans l'émission qui passe ce soir, ce qui frappe, c'est que quand vous entrez dans une boulangerie, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'accueil est très chaleureux.
Tu connais ça, toi, au théâtre ?
Ah ouais, bah ouais. Allez, on y va.
Je suis super content, c'est génial, quoi. Un peu stressé, mais ça va aller, je pense. Ils ont l'air d'être super sympas.
Vous avez tourné pendant... Vous les reconnaissez. Vous avez tourné pendant la pandémie de Covid et donc ceci explique cela. Ils sont joyeux, ils sont contents de voir du monde et de voir des équipes télé.
Au-delà, avec Bruno, on a amené aussi un message d'espoir. C'est parce que le premier confinement, quand même, on ne savait pas à quelle sauce on allait être mangé et surtout les artisans. Et donc, on arrive avec Bruno. Pour eux, c'est une bouffée d'air pur. On leur amène aussi quelque chose. Il y a certains commerces pendant la pandémie qui ne sont pas très bien financièrement. Hein, on ne va pas se mentir. Et donc, nous, on est là pour les rassurer. Enfin, on ne vient pas avec des messages, hein, mais on vient avec un moment de plaisir, un moment de partage où on leur dit de toute façon. On pense à vous, on est là parce que ceux qui sont en province, on n'a pas la même vision aussi du Covid quand on est en province que lorsqu'on vit à Paris,
ouais.
Donc, ou dans des grosses villes. Et avec Bruno, on amène du message, on amène du positif, de la joie de vivre.
Oui, et de la rigolade.
Et de la rigolade.
Et de la rigolade. Tiens, la preuve, on sent que ça s'amuse bien sur le tournage.
Bouguenay, c'est la commune sur laquelle s'est construit l'aéroport de Nantes. Il a été bâti sur les terres du château Bougon.
Ah bah ouais.
Les Bougon-Bouguenais. Alors attends, c'est pas tout. Les Bougnaisiens, ouais, sont des gens très ouverts sur le monde.
Ah bon ?
Et figure-toi que Bouguenay est jumelé avec une ville en Roumanie,
ouais,
en Allemagne,
ouais,
en Palestine et au Nicaragua.
Hey, Nicaragua, si, señor. A la cucaracha, vamos a la panaderia.
Oh, bah, j'ai bien fait de te dire ça.
Allez, si,
allez,
señor.
Bon, j'en ai pour la journée.
Allez, hasta breve.
Allez, Bouguenay.
Churro, chichi, on y va.
C'est une émission, Bruno, c'est une émission de gastronomie, mais c'est aussi du divertissement.
Ben oui, parce que c'est aussi ça le métier de boulanger. Alors effectivement, c'est un métier qui est sérieux, mais voilà, on sillonne les boulangeries. Le boulanger, c'est quelqu'un de convivial, c'est pas forcément quelqu'un qui se prend complètement au sérieux. Et,
ouais,
et puis moi, comme je dis souvent, le pain, on partage le pain, on est copains, donc quand on est copains, on se marre, quoi.
Et vous avez même partagé, voilà, vous avez même partagé le pain à l'eau de vie.
Ah oui.
Là, oh là,
c'était comment?
Oh là là. Et je crois que dans toutes les anecdotes, moi j'ai la chance de tourner sur cette émission depuis 8 ans. Le boulanger, quand il nous a fait ce pain à l'eau de vie, mais on avait vraiment le sentiment d'être au-dessus du tonneau. Enfin, c'est quelque chose, j'en ai encore un souvenir, et j'en ris d'avance, c'était extraordinaire. On se dit, mais comment est-ce qu'il arrive à faire ça?
Ouais.
Là, c'est vraiment un pain qui est destiné à un public plus
averti. Ah ouais, mais il est trempé dans l'eau de vie, pas cuit dans l'eau de vie, ouais, il est trempé après.
Non, même pas, il a fabriqué le pain à partir d'eau de vie, là. Il a fait son pain.
Oui, mais après, l'alcool, ça s'évapore à la cuisson.
Là, on s'est demandé à Bruno comment il a fait pour rentrer la bouteille dans le pain, quoi. On s'est dit, on n'a pas pu reprendre le tournage tout de suite.
Vous étiez vraiment ivre?
Ah bah, on n'était pas ivre, mais on était quand même assez joyeux.
Ouais.
Et après, on devait faire donc des débriefs, on doit donner les notes, et on n'arrivait pas. On s'est limite fait un peu engueuler par le producteur parce qu'on n'arrivait pas à tenir trop.
Et ben justement, on marque une pause et j'en ai du pain à l'eau de vie. Regardez, non, je déconne, vous me croyez. Bruno Cormeret, Norbert Tarrère avec nous, Culture Média continue, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En direct avec nous, Bruno Cormeret, meilleur ouvrier de France. Il est boulanger, Norbert Tarrère. Il présente depuis lundi, ça a démarré hier, la 8e saison de la meilleure boulangerie de France. C'est sur M6 à 18h40. Il y a des nouveautés dans cette 8e saison. Bruno, vous faites des tutos. Qu'est-ce qu'on y apprend? Qu'est-ce que vous nous apprenez?
Le tuto, il est surtout destiné à la ménagère. On essaie de montrer un peu des tours de main, des petits réflexes, comment retenir une recette, par exemple, très simplement, comment faire un biscuit génoise, comment faire du pain à la maison, comment faire un fond de tarte. On essaie de faire des choses simples, mais des choses efficaces. Alors, il n'y a pas que les tutos en nouveauté. Il y a aussi une grande nouveauté de cette année. C'est qu'on a sillonné toute la France. On a fait des 13 régions françaises.
Ouais.
Et c'est ce qui fait qu'on a fait énormément de routes et on a pris énormément de plaisir.
Bruno, dans le dossier de presse, vous dites, nous ne pensions pas qu'en saison 8, nous allions à ce point être surpris par la créativité des boulangers. Vraiment?
Ouais, vraiment, parce que moi, je trouve que depuis, encore une fois, moi, j'ai la chance d'animer cette émission depuis 8 ans. Et Norbert sera d'accord avec moi. Je pense que cette année, on va remercier le casting. Ils ont fait un boulot extraordinaire. On a un niveau de boulanger exceptionnel.
Ouais.
On a des régions françaises où on sait qu'il n'y a pas une grande qualité du pain. Et je ne vais pas les citer pour ne pas les vexer. Mais cette année, on a retrouvé un pain de qualité partout. Donc, c'est vraiment, on a eu affaire à de très, très bons artisans boulangers.
Alors, moi, j'ai tendance à vous croire, mais dans 20 minutes, c'était hier, Fabien Rondane doute de votre bonne foi. Il écrit « Le refrain est connu. À chaque nouvelle saison d'un concours culinaire, pas seulement vous, hein, on nous assure que le niveau est plus relevé que jamais. » Qu'est-ce que vous répondez à ça, Norbert?
Je pense qu'on est quand même un berceau de la formation au niveau bouffe en France.
Ouais.
Tous les métiers de bouffe.
Oui, mais c'est pas possible que ça monte d'année en année.
Regardez, Philippe, hier c'était l'ouverture. Excuse-moi, Bruno, je fais une parenthèse. Guide Michelin, on a quand même des top chefs qui ont été récompensés d'une étoile Michelin.
Ah,
Colin
oui.
Folquier, on a Maury.
Exactement.
Et ces gens-là, ils ont fait de la télé et c'était le même sujet. C'était des saisons différentes où on a dit la saison est encore meilleure.
Vous avez raison, je vais le citer, le jeune Maurice Sacco qui avait 28 ans et aussi Corinne Folquier qui avait participé qui avait participé à la saison 7 de Top Chef en 2016. Ouais. Vous n'avez pas eu d'étoile vous avec vos restos.
Ah si, je l'ai eu moi.
Ah.
Mais moi je l'ai eu, mais j'étais très confidentiel puisque c'était pas moi. Moi j'en étais le propriétaire, mais je n'étais pas le chef en cuisine. Mais j'ai eu dans un de mes établissements l'étoile Michelin, bien sûr.
Maurice Sacco qu'on va retrouver sur France 3 à partir de la semaine prochaine. Bruno, c'est... allez-y.
Je serais tenté de dire heureusement que le niveau évolue parce que avec tous les moyens de formation, d'information qu'on a aujourd'hui, au travers des médias, des émissions comme la nôtre, au travers des réseaux sociaux, tout le monde met des photos, des plats, de croissants, de pain. Moi, je trouve que c'est normal que le niveau évolue et on avance dans le bon sens. Moi, je trouve ça top. Hein. Mais vraiment.
Alors, moi, j'ai cette fois une critique, une petite à vous faire, c'est qu'il y a quand même votre titre un peu mensonger. Parce que si l'émission consacrait vraiment la meilleure boulangerie de France, on pourrait retrouver cette boulangerie d'une saison sur l'autre. Or, vous repartez toujours à zéro. C'est comme si le PSG n'avait pas le droit de participer au championnat de France parce qu'il a gagné la saison d'avant. Ça repart de zéro.
On repart de zéro, mais parce que quand on donne le titre à cette boulangerie-là, après, il faut laisser la place à d'autres. Dans la région, vous voyez bien, dans la région, on a des localités et on peut pas... Mais des fois, on a tourné à côté du vainqueur. À Bordeaux, on a tourné à deux rues du vainqueur précédent. Et puis aussi, il faut pas oublier que c'est un tremplin pour cette boulangerie. On pense à Utopie.
Ouais.
Utopie, aujourd'hui, celle qui a gagné la boulangerie parisienne. Hein. Elle a ouvert une deuxième boutique, elle fait des livres, elle s'est exportée, elle est consultante, elle était présente au Fooding, au Omnivore. Il y a plein d'autres boulangers qui ont été propulsés. Donc les remettre en compétition, je pense que aussi, c'est remettre peut-être en cause leur titre.
Avant qu'on parle de télé avec Norbert Tarrer, un mot avec vous, Bruno Cormeray. Il y a quelque chose qui vous énerve. Vous dites qu'il y a une tendance qui monte. C'est le pain de moins en moins cuit. Pourquoi ça vous énerve?
Le pain, pour moi, en tant que vrai boulanger, le pain, ça doit être cuit. Quand il est cuit, on a des croûtes qui sont différentes au niveau des épaisseurs, au niveau de la couleur, au niveau du gustatif. Aujourd'hui, on fait du pain qui est tout mou. La vraie particularité de la baguette française, c'est justement c'est qu'elle doit être croustillante.
Ouais.
Et si elle n'est pas cuite, elle n'est pas croustillante.
Et pourquoi ils font ça?
Mais c'est gustativement aujourd'hui, moi je trouve que dans le monde entier, aujourd'hui le pain le plus consommé au monde, c'est du pain de mie, c'est du pain mou. Mais voilà, les gens aujourd'hui veulent du pain pas cuit, s'imaginent peut-être que ça va aider aussi à la conservation du produit. Mais moi je trouve qu'on perd une partie du patrimoine de la baguette.
Norbert Tarrer, je vais parler de télévision.
Oui.
Vous dites que vous avez envie de bouger, voire de changer de chaîne. Vous voudriez faire quoi? Vous voudriez qu'M6 vous confie une grosse émission à vous, sur M6 ou sur
W9? Non, je voudrais faire quoi?
Vous l'avez dit.
Oui,
j'ai envie d'avoir un gros programme sur M6.
Oui.
Même sur W9, pas forcément lié à la cuisine.
Écoutez, c'est un moment où je suis resté confiné assez longtemps. Je pense que j'avais pas trop idées, j'avais envie qu'on s'occupe de moi. J'étais comme un petit enfant.
Et c'est pour ça que vous êtes allé voir ailleurs? Parce que vous avez également dit, M6 est une chaîne où je suis le premier au niveau du travail, mais dernier au niveau du comportement. Quand je vais faire Vendredi tout est permis sur TF1, c'est pas autorisé. Est-ce qu'ils vous ont passé un savon?
Non, du tout. Ils ont compris. J'ai eu un appel très diplomate de la chaîne et qui m'ont dit « Écoute, Norbert, en ce moment, c'est une situation compliquée pour tout le monde. Donc, prends ton mal en patience, range ton frein et puis on verra par la suite. » Mais non, je n'ai pas été réprimandé.
Record hier, 1,8 million, la meilleure boulangerie de France. C'est du lundi au vendredi.
Ouais.
Donc, ce soir à 18h40 sur M6. Merci, Norbert Tarrer.
On aimerait dire bravo à tous nos boulangers. Merci de leur accueil et bravo pour ce qu'ils font pendant la pandémie.
Félicitations à la boulangerie française.
Et merci, Bruno Cormeray.
informerai. Et bravo à votre GPS qui vous a permis d'être à l'heure avec nous. Culture Média continue. Après le rappel des titres de 10h, on va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain avec une histoire vraiment poignante sur des lycéens résistants. Et Bertrand Chameroy pour son écran de veille ronchon. Notre invité, c'est Mickaël Youn, un de vos collègues d'M6 pour la déclinaison de son Morning Live. Mais le soir, Morning Night, c'est encore plus dingue que le matin. Et puis dans les indispensables, séance de rattrapage des meilleures répliques de Jean-Pierre Bacri. Et puis un Comedy Club en direct de votre salon. A tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes féru de séries, vous ne savez plus quoi regarder. Vous voulez tout savoir sur l'envers du décor. Vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.